France Culture.
Question d'islam par Ghaleb Benchir. Aujourd'hui, nous parlons d'approche critique, subversive et humaniste de l'islam, d'une manière générale, mais tout particulièrement dans l'œuvre de Mohamed Harkoun. Et pour en parler, j'ai grand plaisir à accueillir Leïla Taouil.
Bonjour.
Merci de nous donner de votre temps, de nous faire l'amitié de répondre à cette invitation. Je dis tout de suite à nos amis auditeurs que vous êtes à Genève et grâce aux moyens techniques, nous sommes très bien connectés. Vous êtes chercheuse, collaboratrice scientifique de la faculté de théologie de l'Université de Genève. Vous êtes membre du Parlement des écrivains francophones. Et vous êtes aussi membre du cercle des ambassadrices et des ambassadeurs de la paix. Vous vous êtes intéressé très tôt, vous avez connu Mohamed Harkoun, vous vous êtes intéressé à son œuvre, à son travail, à ses recherches. Il nous a quittés maintenant il y a un peu plus d'une quinzaine d'années. Et donc dans votre dernier ouvrage qui aborde cette question de la critique subversive et en même temps laissant ouvertes les perspectives d'un humanisme propre à l'islam qui contribue aussi à l'humanisme d'une manière générale pour une civilisation humaine, eh bien tout cela est le produit de votre ouvrage. Comment étiez-vous vous-même intéressé à ce travail de Mohamed Harkoun?
En fait, au moment de la réalisation de ma thèse doctorale à l'Université libre de Bruxelles sur la question des femmes dans les discours fréristes et salafistes, je me suis rendu compte de l'état du phénomène de la réislamisation et de l'absence d'une pensée critique que j'ai trouvée auprès de l'œuvre de Mohamed Harkoun et avec l'association d'Akira et avec l'Université libre de Bruxelles, avec Myriam Amrani et Firouzé Navandi.
L'association d'Akira, c'est un mot qui dit mémoire et c'est une association qui œuvre à dépoussiérer tout le travail de cette salafisation
entre autres,
des esprits.
Parce que c'est une association laïque. Et donc, on a eu l'idée de rendre accessible, en fait, l'œuvre de Mohamed Harkoun auprès d'un public non initié et démocratiser savoir et ses connaissances critiques auprès donc du grand public. Et à cette occasion, on l'a invité à plusieurs reprises entre 2008 et 2009. Et d'ailleurs, on a réalisé un documentaire qui s'intitule « Pour une pensée libératrice ».
Et cette pensée libératrice se veut à l'ère du fondamentalisme islamiste et surtout l'idéologie d'un combat sacré, à l'ère donc du djihadisme international. Et tout cela est fondé surtout sur des postulats anhistoriques, garantis par le divin et sacralisés. Ce travail d'une approche critique, historicisée, subversive, s'avère nécessaire. Et salvateur.
Exactement. D'ailleurs, je me permettrai de revenir un peu sur la personne de Mohamed Harkoun, qui est Mohamed Harkoun. Alors, très rapidement, ça a été un acteur majeur du dialogue interculturel et interreligieux, notamment à l'UNESCO. Il a été enseignant à l'Université de la Sorbonne dès le début des années 1960 en tant qu'historien de la pensée islamique. Et il a élaboré toute sa pensée durant plus d'une cinquantaine d'années à l'étude de l'histoire passée et présente du fait et de la pensée islamique en les enrichissant des apports des sciences de l'homme et de la société durant une période où l'islamisme à partir de la fin des années 1970 devient progressivement une force sociopolitique considérable.
Il est né en 1928 dans un village kabyle qui s'appelle Taourir Tebimoun et il a suivi sa scolarité secondaire dans un lycée à Oran et il est décédé un 14 septembre 2010.
Et en fait, tout au long de sa carrière académique, en qualité d'intellectuel engagé, il va s'atteler à la déconstruction justement des axiomes médiévaux divinisés de l'orthodoxie sunnite dominante, comme la question du Coran créé, la charia, on va y revenir, auxquels se réfèrent justement les acteurs islamistes dans une optique idéologique totalisante. Mais il va également défendre l'idée d'une reconstruction de la pensée islamique dans une perspective moderne et humaniste.
Leïla Tawil, Mohamed Harkoun, est connue aussi pour son idée et sa pratique de l'islamologie appliquée. En quoi consiste-t-elle, cette islamologie appliquée, par rapport à une islamologie classique ?
Effectivement, elle crée une discipline neuve qui est l'islamologie appliquée, qui est influencée par Fernand Braudel, Roger Bastide et d'autres intellectuels. L'islamologie appliquée est solidaire de l'islamologie classique, mais elle ne va pas se limiter à une restitution linéaire de l'histoire de la civilisation islamique et à une critique philologique de ses grands textes. Elle va précisément se fonder sur l'historicité des textes scripturaires et des constructions dogmatiques en intégrant les sciences humaines et sociales, tout en produisant toute une série de concepts pensables, impensables, etc., qui permettent justement de penser autrement le fait et la pensée islamique dans une approche réflexive en ayant recours à l'histoire à rebours, qui va se traduire par un va-et-vient entre le présent et le passé des sociétés travaillées par le fait islamique, avec cette ambition de prendre en charge les problèmes actuels de ces sociétés en mettant essentiellement en lumière leur genèse historique. Alors, au niveau du champ intellectuel religieux, en qualité d'acteur de la pensée islamique, Mohamed Harkoun est subversif dans la mesure où il va appeler les acteurs religieux à une subversion conceptuelle de la pensée islamique en soumettant cette pensée islamique à la recherche scientifique libre et déconstructive, à la lumière de l'anthropologie, de l'histoire, de la linguistique moderne, mais en ayant principalement recours au concept de rupture épistémologique.
Alors, d'une manière concrète, cette rupture épistémologique et ce passage de l'épistémie médiévale éculée à une épistémie moderne passe justement par le fait de pourfondre les quatre dichotomies inégalitaires musulmans, non-musulmans, croyants, non-croyants, hommes-femmes, hommes libres et hommes de basse extraction, l'esclave. Et donc cette vision du monde médiéval doit être totalement dirimée par une approche nouvelle du respect de la dignité humaine, par-delà le genre, l'appartenance confessionnelle, l'orientation métaphysique et les options philosophiques.
Alors oui, effectivement, ça ce sont les conditions essentielles pour l'élaboration d'un islam humaniste et moderne. Mais avant d'arriver à ces conclusions, Mohamed Harkoun essaye justement d'expliquer quel est ce concept de rupture épistémologique qui fait donc référence à Bachelard qui postule l'idée selon laquelle l'acquisition d'une nouvelle connaissance scientifique se réalise contre une connaissance antérieure erronée qui constitue donc un obstacle épistémologique, d'où la nécessité de détruire les connaissances mal faites. Et ce concept de rupture épistémologique renvoie dans l'œuvre de Mohamed Harkoun au passage précisément d'une épistémie médiévale à une épistémie moderne de l'exercice de la pensée islamique qui est conditionnée par le nécessaire travail de validation ou d'invalidation des postulats qui sous-tendent la formation de l'islam classique. Or, précise Mohamed Harkoun, à l'aune de l'épistémologie historique, les postulats de l'islam classique sont largement invalidés parce que justement la pensée médiévale se fonde essentiellement sur un concept de rationalité essentialiste, substantialiste et immuable, qui est garantie soit par un intellect divin, soit par un Dieu créateur. Or, justement, les acquis des connaissances modernes sont désormais basés sur quoi ? Sur le concept d'espace socio-historique, continuellement construit et déconstruit par des acteurs sociaux. Pourtant, jusqu'à aujourd'hui, les gestionnaires, notamment de l'orthodoxie sunnite, qui est donc élaborée dans le cadre épistémologique médiéval, continuent à présenter l'islam comme un ensemble de connaissances indépassables, fondées sur la quête des textes-preuves, Coran et Hadith, qui sont les sources des normes religieuses, mais qui sont précisément coupées du vécu des acteurs et des sociétés. C'est ce qui constitue, précise Arkoun, un obstacle épistémologique majeur qui va empêcher l'inscription de l'islam dans la modernité à travers essentiellement la reconnaissance de son historicité.
Ce qui revient à cette notion de la mytho-histoire et la mytho-idéologie, avec cette collusion à la fois entre des mythes et entre une construction historique.
Exactement. Et Mohamed Arkoun fait également référence à la linguistique moderne, et j'aimerais donner un exemple pour mettre en lumière ce qui fait obstacle à une étude critique du fait coranique. Par exemple, il dit que lorsque une personne croyante adhère à l'idée de la parole de Dieu, donc au fait que le Coran soit assimilé à la parole de Dieu, eh bien, elle va se laisser envahir par elle en s'y soumettant, et elle va ressentir cette sensation de rejoindre directement Dieu. Et son univers réel va être totalement transfiguré par cette puissante fonction métaphorique du langage. Et c'est cette intériorisation répétitive du sens de nom de Dieu, du fidèle par le biais du langage, parce que l'humain s'exprime à travers le langage, que cette répétition de Dieu à travers la méditation, la prière, va lui procurer un sentiment de sa présence consolatrice, protectrice et inscrite dans un horizon d'espérance. Mais c'est cette adhésion spontanée des croyantes et des croyants à cette vérité en réalité construite qui explique cette réelle difficulté, voire l'impossibilité pour un grand nombre d'intégrer à l'étude du fait coranique, comme je l'ai dit, les acquis en fait de l'islamologie appliquée à travers l'épistémologie et la linguistique moderne. Or, s'il existe des versets tels que « Et ma miséricorde embrasse toute chose », Sourate 7, verset 156, qui viennent nourrir cette spiritualité intérieure individuelle, il existe également des versets liberticides à portée collective qui appelle à la violence, telle que la fornicatrice et le fornicateur fouettez-les chacun de 100 coups de fouet, Sourate 24, verset 2, d'où l'importance de revenir sur le statut théologique du texte
du Coran
coranique.
Lui-même. Leïla Tawil, en vous écoutant, j'ai cru comprendre qu'il faudrait savoir, dans une œuvre de discernement, distinguer ce qui relève de la conscience émotive, pour emprunter le langage arkounien, qui est la foi, et tout ce que vous avez évoqué dans l'approche spirituelle, et surtout des passages comme « Ma miséricorde embrasse toute chose ». Mais il y a aussi d'autres passages tout aussi coraniques, qui eux sont problématiques, et ils nécessitent une réelle compréhension en les relativisant à la fois à leur contexte et aussi en les ramenant à des faits historiques. Et de ce fait, l'embarras de certains théologiens et des commentateurs, c'est de ne pas distinguer entre le statut même du texte révélé.
Exactement. Et pourquoi il y a cet embarras ? Parce que justement, l'ensemble du statut du Coran est assimilé à la parole éternelle et incréée de Dieu, qui est le postulat de l'islam sunnite. Et Mohamed Arkoun propose, pour justement cette refondation de la pensée islamique, de redéfinir le statut théologique du Coran. Et pour ce faire, Il revient sur cette fameuse thèse, moi, thèse élite du Coran crié, qui est devenue un impensable majeur pour l'orthodoxie sunnite. Je vais y revenir très rapidement parce qu'il est nécessaire de mettre en lumière l'historicité. D'ailleurs, c'est vraiment récurrent dans les écrits de Mohamed Harkoun, cette thèse mu'tazilite du Coran crié. Donc, on est au milieu du 8e siècle à Basra et à Bagdad, et là, il y a un mouvement théologique rationaliste qui est imprégné de la philosophie grecque et qui va postuler le primat de la raison sur le donné révélé, le libre arbitre de l'homme et le caractère créé et donc historique du Coran créé. Ces thèses sont donc défendues par les Mu'tazilites, qui vont être soutenues par le calife Al-Ma'mun, mort en 833.
Oui, les Mu'tazilites est une école de pensée, et le mot lui-même veut dire ceux qui se sont mis à l'écart, ceux qui se sont retirés. Allusion faite au fondateur Wasil ibn Atta, qui finalement, n'étant plus d'accord avec son maître Hassan al-Basri, Hassan de Bassora, va se retirer, une des légendes en tout cas pour parler de cette école, et à juste raison, comme vous le dites si bien Leïla Taouil, il y a des thèses audacieuses à ce moment-là, et rationalistes sur le libre arbitre, sur le caractère créé du Coran, et sur le primat de la raison.
Exactement. Et donc, le calife Al-Ma'mun va adopter cette thèse en tant que doctrine et en tant que religion officielle de l'État en 827. Et cela va durer pendant une vingtaine d'années. Mais les théologiens rationalistes, les Mu'tazilites, vont se heurter à une forte opposition de la part des théologiens traditionalistes, qui, eux, sont justement tenants du primat du Coran incréé et éternel sur la raison humaine et de la prédestination de tout un individu. Et ce mouvement est représenté principalement par l'imam Ibn Hanbal, pour qui cet axiome mu'tazilite est une atteinte au dogme d'un créateur tout-puissant auquel la créature doit se soumettre. C'est pourquoi justement cet axiome mu'tazilite est considéré comme une atteinte au dogme d'un créateur tout-puissant, parce que la posture humaniste mu'tazilite va mettre la parole de Dieu au service de l'être humain responsable et cultivé, et de la sorte va affaiblir la transcendance divine. Et c'est ça qui va susciter des réactions épidermiques chez les théologiens traditionnalistes.
Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam, et aujourd'hui avec Leïla Taouil, nous parlons d'une approche critique, subversive et humaniste de l'islam. Cette approche avec ses trois épithètes, d'abord critique et puis subversive, et ne n'oublions pas humaniste, sont nécessaires pour caractériser le travail considérable dans l'œuvre de Mohamed Harkoun, mais aussi des théologiens qui sont un peu dans son sillage. Et Leïla Taouil est chercheuse, collaboratrice scientifique de la faculté de théologie de l'Université de Genève, membre du Parlement des écrivains francophones et membre du Cercle des ambassadrices et ambassadeurs de la paix. Pour cette deuxième partie, Leïla Taouil, parlons encore un peu plus effectivement du statut du Coran, le dogme indépassable chez les sunnites traditionnalistes, notamment avec Ahmed ibn Hanbal, mort en 855, et le maître éponyme de l'école hanbalite, finalement doit être battu en brèche et revenir, et avec force, à l'idée d'un Coran créé, articulé dans l'histoire et historicisé.
Alors, il faut tout de même revenir à cette histoire qui est extrêmement importante. Parce que justement, cette posture de Ibn Hanbal va être adoptée par le calife al-Mutawakkil en 847. Et cette doctrine du Coran incréé va être donc adoptée officiellement et politiquement. Et ce fait-là va inaugurer le processus de ce que Mohamed Harkoun nomme la clôture dogmatique. Mais ce débat relatif au statut du Coran va se poursuivre, notamment en opposant d'une manière radicale la posture de Abu Hassan al-Ash'ari, qui est mort vers 935. L'ash'arisme est au fondement du sunnisme, qui va s'inscrire dans la lignée d'Ibn Hanbal en assimilant l'ensemble du contenu du Coran à la parole incréée de Dieu et qui va s'opposer au postulat du Mu'tazili, représenté notamment par Abu Ali Jubayri, mort en 917, pour qui Dieu a créé le Coran dans le Lawh al-Mahfouz, la table gardée, puis le recrée dans une multiplicité de mémoires. Et donc, ces riches controverses vont durer pendant près de 3 siècles, mais elles vont être brutalement interrompues en 1017 par le décret du calife al-Qadir, mort en 1031, qui va faire lire en l'an 1017 dans les mosquées de Bagdad une profession de foi dite al-Aqida al-Qadiriya, qui ordonne la mise à mort de quiconque prophète la doctrine du Coran créé. Et donc, si vous voulez, ici, c'est très important de s'arrêter pour expliquer brièvement la démarche de Mohamed Harkoun qui adopte la méthode généalogique et critique nietzschéenne pour démontrer que les dogmes, comme la puissante thèse du sunnite du Coran incréé et éternel, sont le fruit de l'histoire écrite par des acteurs sociaux. Ici, en l'occurrence, les théologiens rationalistes mu'tazilites et les théologiens sunnites al-Sunna wal-Jama'a, inscrit dans des rapports de force où justement la posture triomphante adoptée par le politique, ici la thèse du Coran incréé, devient l'orthodoxie en reléguant au statut d'hétérodoxie les autels. Et donc, au moment où il y a ce décret du calife al-Qadir, eh bien, Mohamed Harkoun le souligne, c'est la fin des débats publics. Et là, la clôture dogmatique sunnite va se consolider en étouffant progressivement le dynamisme du pluralisme doctrinal qui se caractérisait par des riches et fécondes discussions entre des grammairiens, des juges, des philosophes, des soufis, des rationalistes mu'tazilites. Et avec l'arrivée au pouvoir des Seljoukides au XIe siècle, ajoute Harkoun, les cadres sociaux et politiques de la connaissance vont donner la primauté à la raison théologico-juridique sunnite. Et cette tendance va s'accentuer au fil du temps dans le sens d'une élimination progressive de l'attitude philosophique du champ intellectuel de l'histoire de la pensée islamique, et ce jusqu'à pratiquement aujourd'hui.
C'est cette méthode déconstructiviste finalement du postulat essentialiste d'un islam anhistorique ou substantialiste qui caractérise son approche subversive.
Exactement, parce que lorsque les concepts tels que la charia, le Coran incréé, sont présentés comme des dogmes pratiquement tombés du ciel, eh bien, il est pratiquement impossible pour les personnes croyantes de remettre en question ces dogmes divins. Et donc, c'est pour cela que Mohamed Harkoun donne une importance capitale à l'historicité des constructions dogmatiques. Et pour revenir sur la redéfinition du statut théologique du Coran dans une perspective moderne, Mohamed Harkoun dit que ce débat Coran créé demeure fécond. Pourquoi ? Et théologiquement ouvert. Parce que lorsque les Mu'tazilites disent que le Coran est créé, eh bien, ils vont introduire la dimension de la culture et du langage, qui sont le fait des hommes et non pas de Dieu. Et la portée humaniste des thèses mu'tazilites, comme celle du libre arbitre et de la responsabilité de l'être humain, participe à l'autonomisation de la personne. Et donc, il invite les acteurs religieux à réouvrir ce chantier relatif au statut des textes fondateurs en vue justement d'assurer le passage de l'épistémologie médiévale à l'épistémologie moderne, à la lumière notamment de l'anthropologie, de de l'histoire et de la reconnaissance de l'historicité du discours coranique et des traditions prophétiques. Ce travail, il est capital. Pourquoi il est capital? Plus encore aujourd'hui. Parce que malheureusement, nous sommes à l'ère du djihadisme mondialisé qui ôte des vies au nom d'une vérité qui sacralise une violence en mobilisant des passages coraniques assimilés à la parole de Dieu éternel et incréée par une extrême minorité d'acteurs djihadistes. Et donc, l'approche moderne arcounienne relative au statut théologique est vraiment d'une actualité brûlante. Et je vais donner un exemple. Mohamed Arkoun a eu entre autres le grand mérite d'analyser la Sourate 9, qui est donc mobilisée par les djihadistes, mais également les théologiens.
La sourate dite du repentir, une des toutes dernières sourates qui aurait été révélée en gros vers 631. Donc on est à la fin du ministère apostolique du prophète, dans la période médinoise. Et lui, il mourra en 632.
Oui, et c'est bien de le dire parce que ça peut être interprété comme étant les derniers enseignements du prophète. Donc, d'où la nécessité de revenir sur cette approche arcounienne. Donc lui, à l'aune de son fécond concept violence anthropologique, ça veut dire que la violence, elle est dans toutes les sociétés, ce concept est violence sacrée et vérité, ou comment au nom d'une vérité religieuse ou profane, on sacralise une violence pour le salut céleste ou terrestre des hommes. Donc on a les guerres de religion, mais on a aussi des idéologies meurtrières telles que le stalinisme. Il dit que ce concept de violence anthropologique peut mener à des lectures pacifiées des passages belliqueux du Coran. Très rapidement, je l'ai traité ailleurs, mais je renvoie surtout aux lectures du Coran de l'île de Mohamed Arkoun.
Lecture du Coran au pluriel, on oublie toujours le S.
Exactement. Eh bien, revenons sur le verset 5 de la sourate 9, qui est appelé le verset de l'épée, Ayat al-Sayf.
Et le verset du sabre ou le verset de l'épée, qui n'est pas dans le texte, mais c'est ainsi qu'il est appelé.
Exactement.
Par les tenants d'idéologie du combat sacré.
Exactement, et sur lequel se fondent tout précisément les théologiens médiévaux pour élaborer le concept du djihad armé, et qui est prioritairement, il faut le souligner, cité par Daesh pour justifier ses atrocités. Alors, que dit ce verset? Après que les mois sacrés se sont écoulés, tuez les polythéistes partout où vous le trouverez, capturez-les, assiégez-les, dressez-leur des embuscades, mais s'ils se repentent, s'ils s'acquittent de la prière qu'ils font l'aumône, laissez-les libres, Dieu est clémence et miséricorde. Pour Arkoun, l'approche anthropologique et linguistique du Coran permet de découvrir que le langage brutal du verset 5 de la sourate 9, assiégez-les, tendez-leur tous les pièges pour les surprendre et les éliminer, renvoie en réalité au lexique guerrier des Bédouins de l'époque prophétique qui pratiquent alors des razziens. Donc cette approche met en exergue l'historicité du discours coranique et le caractère contingent de notamment ce verset mobilisé à des fins de violence sacralisée, qui dément donc son caractère sacré, transcendant et immuable, comme le défendent notamment les djihadistes. Donc cette approche est vraiment fondamentale pour justement sortir de ces lectures qui mènent au rejet de l'autre et à la violence.
Merci bien, Leïla Taouil, pour cette explication. Si vous nous parliez de la triade arcounienne, transgressée, déplacée, dépassée, qui l'emprunte à son ami et maître Claude Quint, décédé en 1991, en quoi consiste-t-elle avec ces trois temps importants dans la subversion de la pensée classique théologique de l'islam?
Alors, je vais donner une définition de ces trois concepts, mais à travers justement la critique radicale de la raison islamique qu'il a défendue. Il a écrit un ouvrage pour une critique de la raison islamique en 1984, qui a fait date. Et le fait de parler de transgression, c'est justement transgresser les limites de la clôture dogmatique sunnite pour soumettre la pensée islamique à une étude critique, déplacer cette question de l'islam du domaine de la théologie pour l'étudier dans le champ des sciences humaines et sociales et dépasser le discours conformiste et scolastique pour adopter justement une approche pluridisciplinaire de l'étude du fait islamique en l'étudiant au niveau notamment académique.
Et avec une nouvelle raison, une raison émergente, une rationalité métamoderne.
Exactement. Alors si vous le permettez, j'aimerais quand même revenir sur un autre domaine auquel s'attale Mohamed Harkoun, qui est la déconstruction d'un autre fondement de l'islam sunnite, à côté donc du Coran incréé, à savoir la sacralité de la charia. Donc, il va s'atteler à l'analyse du contexte d'émergence de l'œuvre de l'imam Shafi'i, qui est mort en 820, et qui est fondateur, selon la tradition islamique, d'une des quatre écoles juridiques sunnites, et qui est considéré comme le véritable théoricien de la législation islamique, la charia, en stipulant explicitement à travers son épître la Risala, la hiérarchisation de ces quatre sources fondements, à savoir le Coran, la Sunna, les traditions prophétiques, le consensus, l'ijma, et le raisonnement analogique, la prière, qui constituent ce que moi j'appelle le carcan fondationnel sunnite, dans laquelle doit s'exercer le raisonnement juridique, en postulant donc quoi ? Une raison serve au service de ces quatre sources sacralisées, opposé donc à une raison autonome. Il faut savoir que dans les contextes islamiques, puis la période classique, dans les contextes islamiques, mais aussi en Europe, dans les milieux fondamentalistes, les milieux islamistes, cette législation islamique, la charia, élaborée donc dans le cadre épistémique médiéval, continue à être enseignée de façon répétitive et scolastique. Et tout le travail de Mohamed Harkoun, qui qualifie l'approche de Shafi'i de méthodologie dangereuse, car elle élimine le libre exercice du raisonnement juridique en dehors de ce carcan fondationnel, eh bien, tout ce travail consiste à mettre en lumière l'historicité de cette législation islamique produite par des juges et des juristes théologiens, mais qui a fait l'objet d'une transcendantalisation et d'une sacralisation, et est présenté et donné à vivre jusqu'à aujourd'hui comme la loi divine, la charia, pure expression des commandements de Dieu qui garantit seul le salut ici-bas et dans l'au-delà des personnes croyantes et qui joue encore un rôle majeur chez les fondamentalistes et les islamistes contemporains. Alors, Mohamed Harkoun, en fait, adopte la critique fondationnelle qu'il distingue de la pensée fondamentaliste. La pensée fondamentaliste va réclamer des fondements divins de la loi et va les appliquer d'une manière dogmatique. Alors que la critique fondationnelle adoptée par Mohamed Harkoun va se traduire par une approche réflexive et, comme vous l'avez très bien dit, déconstructiviste, des fondements mobilisés pour légitimer telle ou telle pratique juridique ou religieuse. Ici, il faut retenir le terme de la légitimité. Qu'est-ce qui légitime telle pratique ou tel acte juridique ou religieux ? Et Mohamed Harkoun va s'atteler à cette critique. Et à ce sujet, dans son approche déconstructive, Mohamed Harkoun rappelle l'existence en réalité d'une grande variété de doctrines liées à l'absence de règles juridiques fixées avant l'adoption de la posture Shafi'i, où effectivement, durant cette période, les juristes discutent et pratiquent le raisonnement libre, fameux Ray, la préférence juridique, l'istihsan, qui se traduit par le fait d'estimer telle chose comme étant bonne en soi, sans référence obligatoire à un indice donné dans les sources scripturaire. Et ces pratiques-là sont réalisées notamment par les théologiens rationalistes, Mu'tazilites. Mais au cours du 8e siècle, il va avoir une vive controverse qui va éclater justement entre les rationalistes matazis, partisans du recours au primat de la raison autonome, et les traditionalistes adeptes du recours au primat du Coran et des hadiths. Et c'est à ce moment-là que la codification des hadiths commence dans ce contexte conflictuel. Et ils vont réclamer, les traditionnalistes, le primat du Coran et des hadiths dans le domaine de la théologie, mais aussi de la philosophie et du droit. Alors que les Mu'tazilites considèrent que la théologie et non le droit doit être au cœur de la pensée islamique. La loi religieuse vient seulement terminer ce que la raison considère comme bien ou mal en soi. Et Shafi'i, dans son refus de l'exercice du raisonnement autonome de l'homme, eh bien, il va en réalité s'opposer farouchement au Mu'tazilite en postulant le recours exclusif au Coran incréé et à la Sunna. Et de ce fait, il va asseoir un axiome décisif pour la pensée islamique, à savoir les textes scripturaires éliminent le raisonnement personnel. Et c'est cette posture historique adoptée par les acteurs de l'orthodoxie sunnite qui va être transformée en dogme sacralisé et qui a un impact jusqu'à aujourd'hui. Pour moi qui étudie le statut des femmes, par exemple, au Maroc, qui dépend de la charia, eh bien, l'argument principal qui s'oppose aux réformes, par exemple, relatives à l'abolition de la polygamie,
et même à la dévolution successorale, à l'héritage.
Exactement, tout à fait, je vais y revenir. Hein. Et bien, comme c'est entériné par le Coran, l'argument qui vient, c'est la ijtihad ma'anis, pas de ijtihad avec les textes.
Ijtihad étant une réflexion mentale, cérébrale, intellectuelle, etc. Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam et aujourd'hui avec vous Leïla Tawil qui est collaboratrice scientifique de la faculté de théologie de l'université de Genève et une chercheuse de talent, membre du Parlement des écrivains francophones et membre du Cercle des ambassadrices et ambassadeurs de la paix. Vous travaillez sur l'œuvre de Mohamed Harkoun, afin d'abord de mettre en évidence tout le débat riche de l'ère classique qui est totalement méconnu ou simplement ignoré déjà par les actuels gardiens du sacré, les entrepreneurs religieux d'une part, et d'autre part, il est important, pour pouvoir subvertir tout cela, de connaître les usages idéologico-politiques de cet islam fantasmé et qui ignore tant l'héritage intellectuel et culturel de cet islam classique et de ces débats qui ont pu avoir lieu.
Exactement, et qui ignore précisément les processus d'historicisation et d'absolutisation et d'essentialisation des constructions dogmatiques qui sont présentées comme la charia, comme le Coran incréé, comme des dogmes anhistoriques tombés du ciel et qui est un obstacle majeur justement à cette inscription de l'islam dans la modernité, comme je l'ai dit. Alors à propos précisément du statut des femmes, Mohamed Harkoun était un fervent défenseur de l'égalité des sexes et il dit que c'est précisément cette reconduite du travail de sacralisation d'une charia fixe assimilée à la parole divine, donc le Coran, et aux enseignements du prophète, qui empêche une réforme égalitaire des codes du statut personnel
et de la famille. Et à ce sujet, c'est bon aussi de le faire savoir, y compris aux non-musulmans, qu'il y a une terrible confusion avec encore un autre mot arabe, le fiqh qui est une sorte d'interprétation et d'une construction, ce que d'aucuns appellent le droit, parfois même on ose le qualifier de droit savant, qui n'est pas tout à fait la charia, mais les musulmans et non-musulmans font une confusion terrible entre ces deux concepts, à la fois le concept de la charia en tant que tel, et vous avez dit à juste raison, perçu comme un dogme anhistorique tombé du ciel, et tout le débat interprétatif de ces normes considérées comme divines.
Exactement. Et l'assimilation de cette interprétation à la charia entraîne en fait une sacralisation de postures humaines qui relèvent de l'interprétation des textes du divin, du texte coranique, en l'occurrence ici. Et pour revenir au statut des femmes, Mohamed Harkoun pointe quand même du doigt qu'en réalité, la charia relève plus d'une décision arbitraire des juristes théologiens que d'une fidélité à l'intégralité du corpus coranique, qui contient d'ailleurs très peu de versets à portée juridique qui peuvent de surcroît se contredire. L'exemple du vin est à ce sujet parlant. Et à propos de la question des femmes, il donne l'exemple de précisément cette question épineuse relative à l'héritage, en citant le verset 180 de la Sourate 2 et le verset 240 de cette Sourate 2. Je me permets de les citer. Il vous est prescrit quand la mort se présente à l'un de vous et s'il laisse des biens, qu'un testament soit fait par lui en faveur de ses pères et mères, de ses proches parents, en accord avec la pratique reconnue. C'est là une obligation pour ceux qui craignent Dieu. Verset 240 de la Sourate 2. Ceux d'entre vous qui sont rappelés à nous, le nous royal qui est Dieu ici, et laissent des épouses devront leur laisser par testament des ressources pour une année. Mohamed Harkoun précise que ces versets, qui imposent donc aux hommes croyants d'établir des testaments pour léguer des biens, notamment aux épouses et aux parents, ont tout simplement été abrogés par les juristes théologiens médiévaux qui prennent de surcroît la liberté de les remplacer par le verset suivant. Voici ce qu'Allah vous enjoint au sujet de vos enfants, aux fils, une part équivalente à celle de deux filles. Hein, qui est le fameux verset 11 de la sourate 4, qui est d'application jusqu'à aujourd'hui. Ils le font pourquoi ? Bien, ils le font pour élaborer une science des successions en adéquation avec leur propre milieu socio-économique du 9e siècle. Et jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, au nom justement de cette charia divinisée, eh bien, cet héritage inégalitaire, qui est en réalité le fruit d'un choix arbitraire des juristes théologiens continue à perdurer dans l'ensemble des sociétés musulmanes. Pour Harkoun, l'émancipation des femmes en contexte islamique doit justement nécessairement passer par une rupture épistémologique en s'affranchissant de ces définitions prémodernes et théologico-juridiques du statut des femmes, infériorisées pardon, dans le cadre épistémique médiéval, comme d'ailleurs dans l'ensemble des sociétés médiévales, pour l'inscrire dans un cadre épistémique moderne qui postule l'égalité des sexes.
Oui, peut-être, et sûrement en recourant au droit positif comme une émanation rationnelle des êtres humains qui s'applique aux hommes et aux femmes, et non pas une sacralisation de dispositions dépassées, et de ce point de vue-là, il y a cette idée de déjuridiciser la révélation coranique.
Exactement. L'objectif majeur dans le travail de Mohamed Harkoun est justement de libérer les textes fondateurs de l'islam de cette mainmise politique, mais également de cette mainmise juridique pour en historicisant justement tous les passages qui sont relatifs à ces deux domaines pour permettre un rapport libre de l'être humain à la spiritualité et pour faire en sorte que l'islam soit justement une source de d'enrichissement intérieur, de spiritualité ouvert à la modernité et à l'altérité.
Et notamment l'altérité confessionnelle et de dialogue avec les autres traditions religieuses. Et quelles seraient dans ce cas, Leïla Tawil, les conditions pour l'émergence de cet humanisme dans lequel la pensée théologique islamique y trouve sa part et contribue justement à un humanisme qui prenne en charge le souci de l'homme et l'héritage, les héritages au pluriel des peuples.
J'aimerais dire avant que l'œuvre de Mohamed Harkoun se caractérise aussi par la démonstration justement de l'existence en contexte islamique d'un humanisme d'expression arabe au Xe siècle, animé par des acteurs intellectuels ouverts à tous les acquis scientifiques, philosophiques
et lequel l'humanisme a été totalement oblitéré, effacé des mémoires, insoupçonné même.
Exactement, et je renvoie à son premier livre d'ailleurs, l'humanisme arabe, au 4e, 10e siècle, Mitzkawai, philosophe et historien. Et effectivement, il y a donc cette question de l'humanisme qui hante véritablement Mohamed Harkoun durant toute sa carrière. Il va également inviter, dans une perspective religieuse, les théologiens et les théologiennes actuelles à l'élaboration d'un islam moderne et humaniste qu'il appelait de ses voeux. D'ailleurs, il a écrit un ouvrage « Humanisme, Islam, combat et propositions » qui a été son dernier ouvrage. Alors, quelles sont les conditions pour l'émergence d'un islam moderne et humaniste? Pour Harkoun, la production d'un islam moderne et humaniste doit nécessairement franchir l'étape, donc, dans une perspective donc, religieuse, d'une mise en crise intellectuelle et spirituelle de la pensée islamique, en vue de la sortie de la clôture mytho-historique orthodoxe médiévale et de la mainmise mytho-idéologique islamiste contemporaine. Il dit que la mise en valeur et la diffusion des œuvres intellectuelles critiques des grands penseurs de l'islam classique, comme celle d'Averroès, mort en 1198, dans sa tension féconde entre théologie, droit et philosophie, ou celle de Mitzkawai, mort en 1030, dans sa confrontation entre éthique et histoire, ou encore celle du théologien réformiste Rifat Tahtawi, mort en 1873, au moment de la Nahda du 19e et 20e siècle, eh bien, toutes ces œuvres qui expriment une ouverture intellectuelle, scientifique et philosophique aux autres cultures participeraient très certainement à une démythologisation et une déritualisation de l'islam militant. Mais ce n'est pas suffisant pour Mohamed Harkoun. Pour lui, il faut réaliser une mise en examen de l'ensemble du patrimoine de la pensée islamique classique, la Torah, inscrit dans une épistémologie médiévale, pour y découvrir quels sont les contenus, les méthodes, les visions, les postulats, les systèmes de connaissances et les critères de jugement et d'interprétation qui sous-tend justement tout ce patrimoine de l'islam classique pour justement les soumettre à une réévaluation épistémologique moderne, dont évidemment notamment le corpus coranique. À ce propos, pour passer d'une épistémologie médiévale à une épistémologie moderne, comme vous l'avez si bien évoqué au début de l'émission, la supériorité des libres sur les esclaves, des hommes sur les femmes, et des musulmans sur les non-musulmans entérinés par l'anthropologie coranique médiévale doit être abandonné juridiquement et religieusement et philosophiquement, évidemment, au profit d'une égalité citoyenne moderne, totale et indifférenciée. Et donc, la rupture épistémologique préconisée par Mohamed Harkoun va de pair avec une véritable rupture axiologique.
Il est d'une réelle exigence et de ce point de vue-là, il parle donc des droits de l'esprit et de l'esprit critique, y compris de la critique des fondements même de la modernité et qu'il faudrait en finir avec la réciprocité des exclusions médiévales à la réciprocité des consciences modernes.
Exactement. fait, l'ensemble des théologies antiques et médiévales se sont fondées sur des théologies d'exclusion réciproque qui se caractérise par quoi? Eh bien, par le postulat d'une vérité supérieure et exclusive qui rejette l'autre. Et donc, toute la question de la vérité doit être également déconstruite dans le sens nietzschéen, tous les régimes de vérité, pour justement arriver à une cohabitation et à un vivre ensemble au sein de nos sociétés et métissées. Alors, pour Mohamed Harkoun, toute pensée religieuse peut s'avérer et devenir humaniste. Et dans le cas précis de l'islam, comme le discours coranique est de structure mythique, il est porteur de plusieurs potentialités de sens et peut donc, contrairement à la posture de l'islam fondamentaliste qui est explicitement anti-humaniste, s'ouvrir aux richesses humanistes, moyennant donc toutefois une véritable subversion épistémologique. Parce que dans le Coran, nous avons des versets qui appellent à l'entreconnaissance, comme le fameux verset 3 de la sourate 49, « Ô homme, nous vous avons créé du mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous entreconnaissiez. »
Le plus noble parmi vous auprès de Dieu est la piété, mais qu'est-ce la piété? Elle ne consiste nullement à tourner votre face du côté de l'Orient, du côté de l'Occident. La piété véritable est être au secours de l'homme en détresse, de la veuve indigente et du rachat des captifs.
Exactement. Et donc, pour Mohamed Harkoun, la construction d'un islam moderne et humaniste qui intègre les valeurs universelles des droits humains et une égalité citoyenne est possible moyennant tout le travail, notamment de la redéfinition du statut théologique du Coran, dans lequel on peut puiser des versets en rendant caducs les versets qui s'opposent à l'ouverture, à l'altérité qui mène à la violence, mais ce travail de rendre caduc ne sera accepté que si justement on réouvre ce chantier du statut théologique coranique qui doit être fait évidemment par les théologiens et les théologiennes. Et cette pensée islamique, parce que Mohamed Harkoun était aussi représentant de la pensée islamique, peut contribuer à l'élaboration d'un humanisme universalisable. Et pour lui, c'était une tâche majeure. Il fallait réfléchir à la condition humaine, à ce souci de l'être humain pour l'être humain. Et en cela, toutes les pensées doivent y contribuer. Les pensées qui sont présentes et qui remplissent encore une fonction dans les sociétés, les pensées théologiques, les pensées philosophiques, les pensées évidemment politiques, intellectuelles, etc.
Avec cela, nous arrivons au terme de l'émission, chère Leïla Taouil. Merci infiniment de nous avoir parlé, encore une fois, de l'œuvre harkounienne pour cette approche critique, subversive et humaniste de l'islam. Et nous en avons vraiment besoin. Chers amis auditeurs, vous retrouverez l'émission comme toutes celles de la chaîne sur le site de France Culture. C'était l'émission Questions d'Islam que vous pourrez podcaster et réécouter sur l'application Radio France. L'attaché d'émission est Thierry Beauchamp. La prise de son a été assurée aujourd'hui par Élise Le et la réalisation est assumée par Émilie Valla.
تنال من الخصايا صبر ديرو عشيرك déjà une كون صيار واللي مكتوب لابد يكون صيار
Yeah, well,